Nous allons ouvrir en prière. Seigneur, je te prie de bénir cette parole, Seigneur, qui démontre, Seigneur Jésus, que tu es venu, Seigneur, comme le héros. Celui qui accomplissait ce que nous, on ne pouvait pas accomplir. Et qui a été animé d'un véritable courage, Seigneur. Et chacun d'entre nous, Seigneur, on a besoin de ce courage-là, Seigneur. Les choses ne vont pas toujours selon nos plans, mais ils vont toujours selon tes plans. Et Seigneur, donne-nous, Seigneur, ce courage de faire ta volonté, Seigneur, même quand c'est difficile. Et Seigneur, vraiment, que ta parole puisse nous bénir, nous édifier, nous relever. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, qu'on a prié. Amen. Et donc, le titre du message de ce dimanche, c'est « Le champion ». Et j'ai comme référence le pasteur Tim Keller pour ce message-là. On va lire dans Actes des Apôtres, au chapitre 5. On va lire les versets 27 à 42. Et je crois que c'est un message pertinent pour là où on est actuellement dans notre vie chrétienne, en tant que personne, mais aussi en tant qu'Église. Donc, Actes des Apôtres, le cinquième chapitre, nous allons lire les versets 27 à 42. Et pour ceux qui nous suivent sur Internet, eh bien, nous aurons un partage biblique sur ce message-là mercredi suivant. Donc, au verset 27, « Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas eu si longtemps que parut Théudas qui se donnait pour quelque chose, et auquel sur ailleurs environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous dis de ne vous occuper plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le pasteur Tommy Hinson raconte son histoire. Ce n'est pas aussi dangereux que cela. Si tu sais ce que tu fais, dit mon ami Brad, un ancien militaire devenu ministre de l'Évangile, au sujet de l'ascension hivernale du mont Washington, le plus haut sommet du Nord-Est connu pour son climat erratique. Brad a offert un conseil alors que nous commencions l'ascension. Suis-moi et marche sur mes traces. C'est tout? 6000 pieds plus tard, nous avions gravi la région subarctique dans le climat alpin au-delà de la limite des arbres et le monde était dans le brouillard. Éclairs et coups de tonnerre résonnèrent à travers la brume alors que des flocons de neige gros comme des 25 cents tourbillonnaient autour de nous. conditions météorologiques irrégulières, en effet. Encore une fois, Brad m'a rappelé, « Suis-moi, je l'ai déjà fait avant. » Et comme nous avançons péniblement vers le haut, je ne pouvais distinguer le manteau plat de neige que dans un rayon de 10 pieds autour de nous. J'ai commencé à penser, je l'ai compris, je n'ai pas vraiment besoin de suivre Brad. Nous allons simplement à cette grande colline-là. Juste parce qu'il l'a fait avant ne signifie pas qu'il doit agir comme s'il savait tout. Et comme s'il avait entendu mes pensées, le vent a tourné et un courant ascendant violent est venu d'au-delà de nulle part. D'un coup, le brouillard s'est levé, dévoilant le monde qui nous entoure dans un éclat technicolore. Environ 15 pieds à ma gauche, le sol a disparu. Il n'est pas descendu, il a tout simplement disparu. Nous étions sur le bord d'une chute d'au moins 1 millier de pieds. Puis, aussi vite qu'il est parti, le brouillard est revenu et le monde est devenu à nouveau plat. Le cœur battant, je me sentais faible de la réalisation de combien impuissant j'étais, combien peu je connaissais cet endroit et le peu de contrôle que j'avais. Soudainement, sachant que Brad avait fait cela auparavant, faisait de lui la personne la plus précieuse au monde. J'ai fixé mes yeux sur lui et guidé mes pas dans ses traces. Maintenant, combien d'entre nous, des fois, on se sent tellement impuissant face aux circonstances de la vie? Que ce soit le travail, les gens qui nous entourent, les gens que vous essayez d'aider, ou des situations où vous voulez faire la différence. Il y a des montagnes qui vont vous faire sentir si petit, si inefficace et si impuissant. Il y a la montagne de l'imprévisibilité qui vous fait sentir impuissant. Mais il y a aussi la montagne de l'opposition, de la persécution et de la mort qui nous inspire la peur. Alors, comment est-ce qu'on réagirait si tout d'un coup notre monde venait à s'écrouler? Un coup de vent, puis là, tu découvres que la terre n'est pas plate. Non, tu es au bord d'un précipice, là. Que votre zone de sécurité s'est évanouie comme brume au soleil et que le danger et la mort frappent à la porte. Dans Acte 5, les apôtres sont confrontés à une telle montagne, celle de l'opposition. C'est pas juste ça, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Non, ils sont réellement menacés. Ils sont traînés devant le Sanhédrin, le plus haut tribunal juif, celui-là même qui a condamné Jésus à mort. Et pourtant, leur réaction n'en est pas une de peur, mais un courage stupéfiant. Et ce courage n'était pas unique à eux. Les premiers chrétiens ont fait face à une opposition féroce, à la persécution, à la torture et à la mort. Mais ils y ont fait face avec courage. Pendant près de 3 siècles, être chrétien dans l'Empire romain pouvait vous coûter la vie. Il y a eu 10 vagues de persécutions systématiques qui ont été lancées par des empereurs comme Néron, Dice ou dit aux chrétiens. Il était simplement illégal, je pense que pendant 100 ans, si je ne me trompe pas, il était illégal de simplement porter le nom de chrétien. Et pourtant, face aux lions, au feu, à la torture, les croyants chantaient des hymnes et priaient pour leur bourreau. Moi, j'aurais prié pour sauver ma vie. Bon. Peut-être que rendu à cette étape-là, Dieu va me donner une grâce que je n'ai pas encore. Je paraphrase Tertullien, l'un des pères de l'Église. Le sang des chrétiens est une semence. Plus ils vont nous tuer et plus nous nous multiplions. Maintenant, d'où vient ce courage héroïque des premiers chrétiens? Et nous allons explorer ce que la Bible dit pour ce courage héroïque-là sous 3 aspects. Premièrement, c'est quoi la nature de ce courage-là? Deuxièmement, c'est quoi la source de ce courage? Et troisièmement, comment qu'on peut l'avoir, ce courage-là? Parce que si vous et moi, on est honnêtes un petit peu, on ne l'a pas souvent, ce courage-là. Donc, premièrement, la nature de ce courage-là. Donc, les apôtres sont traînés devant le Sanhédrin, le plus haut tribunal juif, et les chefs religieux les interrogent avec fermeté. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et Pierre leur répond, il faut obéir plutôt à Dieu qu'à vous. Et les chefs religieux, là, ils n'étaient pas des hommes vraiment stoïques. Hein? En fait, ils étaient furieux de ces paroles et ils voulaient les faire mourir. Maintenant, ils se tiennent devant des hommes qui ne cherchent qu'un prétexte pour les tuer. Et les apôtres, loin de se rétracter, leur déclarent avec fermeté qu'ils continueront d'obéir à Dieu plutôt qu'à eux. Et c'est un acte de courage extraordinaire, mais qu'est-ce que ça nous apprend sur le courage véritable? Ben, premièrement, le courage se manifeste principalement devant le danger et la mort. Ce n'est pas simplement de l'audace ou de la confiance en soi. C'est la fermeté du cœur face à une menace réelle. Monsieur Anderson a écrit un article sur l'héroïsme qui dit « Les leaders avec lesquels nous sommes aujourd'hui familiers sont des célébrités et non des héros. Les célébrités sont entourées de foules, les héros marchent seuls. Des célébrités consultent des groupes de discussion avant de parler. Les héros consultent leur conscience. Ce qui fait de vous un héros courageux et que vous ne vous préoccupez pas de l'opposition et du danger. Vous vous tenez sur vos principes basés sur ce que vous croyez être la vérité. Vous faites ce que vous pensez être la bonne chose. » Et donc, les apôtres ici, là, ils ne font pas de sondage d'opinion. Ils ne calculent pas les risques. Ils disent la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et deuxièmement, le courage n'est pas de faire ce que vous êtes obligé de faire, mais ce que vous choisissez de faire. C'est admirable de faire votre devoir de soldat, de travailleur, de citoyen, d'amis ou de conjoint, et ce n'est pas toujours facile à faire, mais cela ne fait pas nécessairement de vous un héros. Le courage n'est pas basé sur l'ignorance des risques. Les apôtres savaient parfaitement à quoi ils s'exposaient. Ils n'ignoraient pas la haine du Sanhédrin. Et de plus, ils avaient une porte devant eux, une porte de sortie. Le Sanhédrin leur offrait un marché. Écoutez, on ne touchera pas un cheveu de votre tête, mais arrêtez de parler de Jésus. Rentrez chez vous. Ça va être tellement plus simple pour tout le monde. Mais eux, ils ont choisi de continuer, sachant que leur choix pouvait leur coûter la liberté et la vie. Maintenant, quand la persécution, l'opposition, le danger, la mort viennent, et que vous faites la bonne chose malgré tout, non parce que vous y êtes obligé, mais parce que vous avez choisi de le faire, c'est courageux. Vous êtes un héros quand vous vous sacrifiez par choix, et non parce que vous êtes forcé de le faire. C'est un choix volontaire. Et vous savez, on est dans une époque qui a perdu le sens de l'héroïsme. Vous savez, nos cinémas, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient inondés de films de super-héros. Mais étrangement, notre culture est une culture anti-héros. Pourquoi? Parce qu'on baigne dans une culture d'ironie et de cynisme. Et face aux problèmes de la société, l'ironie devient un bouclier pour ne pas avoir à discuter des vrais problèmes et surtout de ne rien faire. L'ironie est l'acide qui dissout la conviction. Elle n'aime ni les héros, ni les vilains. Elle se moque de la notion du bien et du mal, préférant se vautrer dans une zone grise et confortable où tout est relatif. Ouais, c'est bien que tu penses ça. Mais garde ça pour toi, là. Nous, on aime ça être dans le gris ici. Et l'ironie attaque sournoisement ce qui pourrait avoir une valeur positive, noble ou sacrificielle. Et l'ironie n'est d'aucune utilité pour remplacer l'hypocrisie qui nous entoure. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas de bon œil quand on essaie de sauver des gens ou la société. Car cette culture d'ironie-là nous dit, si on admet que des héros, là, ça implique que des vilains. Et ce n'est pas très inclusif. Restons donc dans le gris, afin qu'il n'y ait pas de jugement, pas d'absolu et pas d'abus. Et donc, l'ironie est un mécanisme de défense pour éviter de prendre position. pour ne pas avoir à s'engager ou à se sacrifier pour quoi que ce soit. Elle nous protège de l'inconfort de la conviction. Mais l'ironie est impuissante face à l'injustice réelle. Qui se lèvera contre le mal si tout est gris? Qui risquera sa vie pour la vérité si la vérité est relative? Et nous sommes tous appelés à manifester du courage héroïque à certains moments de notre vie pour faire ce qui est vrai et bien. Dire la vérité aux gens, même si nous sommes rejetés, maltraités ou persécutés. Défendre le fait, même si ça nous coûte cher. Faire ce qui est juste, même si cela met notre réputation, notre carrière et notre sécurité en danger. De tout le monde, on dirait oui, bien sûr, mais si vous auriez vécu en France lors de la Deuxième Guerre mondiale, auriez-vous caché des Juifs? Auriez-vous essayé de sauver leur vie, même si ça mettait la vôtre en danger? Alors, quelle est la source du courage des apôtres? Vous savez, dans Acte 4, après avoir été emprisonnés une nuit, les apôtres se font menacer par des leaders religieux. Et les choses commencent à mal aller pour eux. Ils font face à la persécution et à la mort. Et ce sentiment d'impuissance-là pourrait les conduire à la peur et l'anxiété. Mais on continue à parler de Jésus quand même. D'où vient leur courage? Et la réponse se trouve dans le texte. La réponse vient de leur confession de foi. Face au souverain sacrificateur, Pierre ne se contente pas de dire « il faut obéir à Dieu ». Il lui donne la raison de son obéissance. Il va dire « le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Et le mot clé ici, c'est le mot « prince ». Parce qu'en grec, ce mot-là, c'est « archégos ». Et c'est un mot difficile à traduire qui a comme trois nuances dedans. On pourrait traduire par « pionnier », excusez, « fondateur et champion ». Et un archégos dans l'esprit grec de l'époque était un héros au sens le plus noble du terme. Et un archégos aurait été le premier homme à s'aventurer dans un pays hostile. Il aurait surmonté les obstacles, il aurait vaincu l'opposition, il aurait dégagé un chemin sûr pour que d'autres le suivent. Et ensuite, il aurait établi un campement fortifié, aurait invité les autres à le suivre sur ce chemin qu'il a ouvert pour venir s'installer dans la nouvelle communauté qu'il avait créée. Et lorsque cette communauté-là grandirait et serait devenue une ville, elle porterait son nom. Il en serait le champion et le protecteur. Et donc, pour les Grecs, un archégos est un héros. Le théologien Bill Lane souligne que dans la culture grecque, un héros, comme Hercule, était appelé archégos et sauteur. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le grec? Archégos et sauteur? Ça veut dire quoi, sauteur? Sauveur. Donc, un héros comme Hercule était considéré comme un... était sauvé comme un héros et un champion et un sauveur. Et en utilisant ces titres-là pour Jésus, les apôtres faisaient une déclaration audacieuse. Jésus le véritable héros. Jésus le véritable champion. Jésus le véritable sauveur. Il a combattu le plus grand des ennemis. Celui qui détenait le pouvoir de la mort, il l'a vaincu. Vous savez, le monde gréco-romain était basé sur l'héroïsme. On n'éduquait pas les enfants en leur enseignant des valeurs ou l'estime de soi. On leur racontait des histoires de héros pour leur inculquer par l'exemple les vertus de courage, de sacrifice et d'honneur. C'est différent d'aujourd'hui, hein? Et Jésus ici est présenté comme le héros ultime, le champion par excellence. Pourquoi? Parce que Jésus affronte l'opposition des foules et des chefs religieux et romains. Il donne sa vie sur la croix par choix et non parce qu'il y est forcé. Et plusieurs fois, on a voulu le tuer, pourtant ce n'était pas le bon moment. Mais il a sacrifié sa vie au bon moment pour nous sauver. Mais c'est là que la comparaison s'arrête, car Jésus est un héros radicalement différent. Vous savez, Hercule ou Superman ont acquis des super pouvoirs. Et c'est ça, c'est ce qui fait d'eux des héros. Mais Jésus n'a pas acquis des super pouvoirs. Il les a toujours eus, ces super pouvoirs. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Mais ce qui fait de Jésus le héros ultime n'est pas le pouvoir qu'il a utilisé, mais le pouvoir auquel il a renoncé pour nous sauver. Philippiens 2 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même, qu'il a renoncé à sa gloire, à son pouvoir, à son invulnérabilité et à sa vie pour nous. Il est devenu faible de fort qu'il était. Il n'est pas venu prendre le pouvoir, mais il l'a perdu volontairement afin d'écrire nos noms dans le ciel. Il n'a pas cherché sa gloire, mais il l'a perdu pour nous. Les apôtres ne sont pas courageux parce qu'ils sont forts, mais parce que leur champion, leur archégos, a déjà remporté la victoire décisive. Et la bonne nouvelle, savez-vous quoi? C'est que ce type de courage-là est disponible pour chacun d'entre nous. Alors, comment pouvons-nous l'avoir? Ce qui m'amène à la façon d'avoir ce courage-là. Comment pouvons-nous trouver ce courage pour nous-mêmes dans nos propres batailles et comment l'appliquer à nos propres montagnes? Parce que je suis sûr, chacun d'entre nous, on a nos montagnes. Nos montagnes d'impossibilité, nos montagnes de peur, nos montagnes d'opposition. Et c'est quoi la méthode du monde? Je n'ai pas posé de question jusqu'à présent, vous l'avez eu facile. C'est quoi la méthode du monde? Mettons que tu as de l'opposition dans le monde, mettons que tu as des défis, c'est quoi la méthode du monde? Comment? Ouais, mais ça ne te permet pas de surmonter la montagne, ça. Quelle est la méthode du monde pour affronter nos peurs, nos montagnes, puis réussir dans la vie?
Trouve des alliés.
Trouve des alliés, OK. La méthode du monde est de se concentrer sur soi-même. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as tout ce que tu as besoin. Répète-toi sans cesse, je suis capable de le faire. Visualise ton succès. Crois en toi. Tu es capable. L'idée que la peur est une illusion et que si vous pouvez vous convaincre que vous êtes fort et capable, ben, vous allez le donner. La plus grande peur, selon cette croyance-là, est quoi? La peur. La peur d'avoir peur. Alors, ignorez la réalité du danger. Bannissez les pensées négatives et imaginez-vous en train de triompher. Je ne suis pas loin, hein, quand même. Mais ce n'est pas du courage, c'est de la défiance. Dieu ne nous demande jamais de nier la réalité pour avoir du courage. Le héros de la foi n'est pas dans le délai ou le déni. Il voit la tempête, il voit les géants, il voit le feu de la fournaise, mais il voit un Dieu encore plus grand. Je pensais que vous auriez dit amen à ça. Alors, quelle est la méthode de Dieu? Elle est radicalement différente. Elle ne consiste pas à regarder à l'intérieur de nous, mais à l'extérieur de nous, vers quelqu'un d'autre. Le verset 32 est essentiel. Nous sommes témoins, c'est ça que Pierre va dire au chef religieux. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le courage vient de où? De ce dont ils ont été témoins. Juste une petite anecdote. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de la transfiguration. Vous savez, Pierre, Jean, Jacques qui montent avec Jésus sur le montagne. Là, Jésus devient tout blanc. Là, Moïse et Élie apparaissent. Puis là, Pierre, il veut faire des temples, mais tu sais, il tripe sa vie, là. Je veux dire, il n'a jamais vu ça. Puis là, la présence de Dieu descend, la nuée descend. Puis là, Dieu parle à travers la nuée et dit, ceci est mon fils bien-aimé. Puis là, il descend de la montagne, puis tous les autres apôtres, puis les disciples sont restés en bas, puis affrontent le démoniaque. Puis ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Fait que là, il y a le père du démonisé qui est là, puis il va voir Jésus, puis il dit, tu peux-tu faire quelque chose parce que tes disciples, là, ça ne vaut pas cher la tonne, là, ça ne marche pas. Pour moi, ils n'ont pas compris la méthode, tu sais. Puis les apôtres, ils ne savent pas, ils disent, écoute, on a prié, on a invoqué ton nom, puis le démon ne voulait rien savoir, ne voulait pas sortir. Tout le monde était dans le doute en bas face aux démonisés. Mais il y a trois apôtres, trois disciples de Jésus qui, eux, n'avaient aucun doute parce qu'ils venaient de voir Jésus sur la montagne. Ils venaient de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Ils ont été témoins de la gloire de Jésus-Christ. Et c'est ça que les apôtres ont dit. On l'a vu, ce Jésus-là. On sait ce qu'il est capable de faire. On sait qu'il est réellement Dieu. On sait que la mort n'a pas pu le retenir. On l'a vu mourir. On l'a vu ressusciter. On a mis nos doigts dans ses trous. Il a mangé avec nous. Leur courage vient de ce dont ils sont témoins. Et de qui sont-ils témoins? Hébreux 12, 2 nous le dit. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et le mot chef est traduit comment ici en grec? Archégos. C'est le même mot. Jésus est le champion et le pionnier de notre foi. Maintenant, comment Jésus a-t-il eu le courage d'affronter la croix? A-t-il tout simplement banni la peur d'après vous? Comment Jésus a-t-il eu le courage d'affronter la croix? Est-ce qu'il a tout simplement banni la peur d'après vous? Vas-y, ma soeur. T'es capable. Avec sa foi. Non, dans le jardin de Gethsémané, en fait, il était tellement angoissé qu'il suait des grumeaux de sang et qu'il a dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il a ressenti toute l'horreur de ce qui l'attendait. Son courage ne vient pas de l'absence de la peur. Alors, d'où venait-il? Bien, le texte nous le dit, en vue de la joie qui lui était réservée. Il a enduré la souffrance en se concentrant sur une joie future. Mais quelle était cette joie-là, d'après vous? Qu'est-ce que Jésus n'avait pas au ciel et qui le remplirait de joie d'avoir? C'est nous. C'est de nous avoir élus pour l'éternité. C'est la joie de nous sauver, de nous faire participer à la vie éternelle avec lui. Et c'est ça qui lui a donné le courage d'affronter, de souffrir et de mourir sur la croix. Et donc, Jésus ne regardait pas à lui-même pour avoir du courage, mais à cette joie de nous avoir à lui pour l'éternité. Ils ont fait un test sur la souffrance. On a demandé à deux personnes de mettre le bras dans un seau d'eau glacée. Et le but, c'était de garder son bras dans le seau d'eau glacée le plus longtemps possible. Une personne ne faisait rien et l'autre personne chantait. D'après vous, laquelle des deux personnes a gardé le bras dans le seau d'eau glacée le plus longtemps? Celui qui chantait. Pourquoi? Quand notre attention n'est pas sur nous-mêmes, nous souffrons moins. Mais ce n'est pas assez. Nous devons regarder à quelque chose qui vaut vraiment la peine pour être courageux face à la persécution et la mort. Et à chaque fois qu'on regarde à Jésus, à ses paroles, à ce qu'il a fait pour nous, ça nous donne du courage. Et donc, le mot « archégos » apparaît deux fois dans le livre des Actes des Apôtres et deux fois, excusez-moi, dans Hébreux. Et chaque fois, il décrit le rôle unique de Jésus dans notre vie, dans notre foi et dans notre salut. Il est celui qui a ouvert le chemin devant nous, qui nous a précédés jusque dans la mort et au-delà. Vous savez, on raconte l'histoire d'un missionnaire se rendant dans un village reculé pour former des leaders de l'église locale. Et un guide a été choisi pour l'amener au village parce que la seule façon d'atteindre ce lieu éloigné était de traverser la jungle. Et le voyage a commencé sans vraiment de problème. Le chemin était beau et facile à suivre. Bien vite cependant, le chemin a littéralement disparu alors que le guide sectionnait la jungle envahissante avec sa machette. Et le missionnaire s'est inquiété et a demandé, « Bien, il est où le chemin? » Et le guide sourit et regarda en arrière, lui a dit, « Je suis le chemin. » Peut-être que c'est la parole que vous deviez entendre ce matin, plutôt cet après-midi, ce midi, ce dimanche. Je suis le chemin. Mais oui, mais je ne le vois pas, Seigneur, le chemin. C'est tellement brouillé, il y a tellement de branches, il y a tellement d'obstacles. Je suis le chemin, suis-moi. Jésus est notre archégos, il est le pionnier de notre foi. Il s'est aventuré en premier sur le terrain hostile de ce monde déchu pour combattre le mal, le péché et la mort. Il a surmonté les obstacles à notre place. Il a vaincu l'opposition et dégagé la voie pour nous. Rien ne pourra vous nuire. À rien. Il est le fondateur de la foi qui a établi son Église et qui nous appelle à descendre sur ce chemin qu'il a ouvert pour rejoindre sa communauté. Jésus est le champion, le protecteur de celle-ci. Et maintenant, quand Jésus nous appelle à être ses disciples, il le dit en deux mots. Suis-moi. Oui, mais l'autre là-bas, non? Inquiète-toi pas pour l'autre. Toi, suis-moi. Ce que nous oublions souvent, c'est que quelle que soit la montagne que nous affrontons aujourd'hui, nous suivons celui qui nous a précédés. Et il a déjà gravi cette montagne-là à notre place. Il a déjà tracé le chemin pour nous. Quand nous regardons Jésus, nous sommes remplis de joie et de courage. Le psaume 139,5 dit « Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » Quelle promesse extraordinaire. Et c'est en Jésus que cette promesse-là devient une réalité. Et par sa mort sur la croix, il nous entoure par derrière, couvrant notre passé, nos échecs et nos péchés. Il a payé notre dette. Et par sa vie parfaite et sa résurrection, il nous entoure par devant, nous assurant une année de bénédiction et la faveur de Dieu. Et en conclusion, alors, chers frères et sœurs, où sont fixés vos regards ce dimanche? Sur la taille de votre montagne? Ouf, elle est grosse celle-là. Pas sûr. Sur la férocité de vos adversaires, sur vos propres faiblesses et impuissances. Et si c'est le cas, la peur va vous paralyser, parce que vous ne serez pas capable de passer au travers. Mais Jésus a ouvert le chemin pour vous. Alors regardez à Jésus, notre grand champion, alors tout va changer. En lui, nous avons le modèle parfait et la source de joie pour traverser toutes les difficultés de la vie. Nous voyons que même la mort, l'ennemi suprême, n'est plus qu'un passage qui nous rapproche de lui. Nous devenons des héros courageux, non parce que nous sommes forts, mais parce que nous regardons à celui qui est la force même. Il est notre force. Nous sommes donc capables d'affronter l'opposition et la persécution avec joie, car nous savons ce que Jésus a fait pour nous. Amen.